Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 24 et Radio France Internationale pour une rentrée européenne inquiétante sur fond de persistance d'un coronavirus qui bouscule décidément nos habitudes, modalités de voyage, évaluation des risques, fermeture des frontières en ordre dispersé pour les 27, plan de relance européen, tension aussi avec les pays tiers. Nous allons aborder ces questions avec notre grand invité de la rentrée, le tout nouveau secrétaire d'État français aux affaires européennes. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Alors pour le grand public, vous êtes un nouveau. En revanche, dans les milieux européens, vous êtes déjà très connu. Vous avez briefé le candidat Macron sur les questions européennes et après son élection, vous devenez naturellement son conseiller à l'Élysée, le sherpa de tous les sommets européens. Vous connaissez donc très bien les arcanes, les fonctionnements et les dirigeants européen. Le président a voulu jouer cette carte européenne pour son élection. Votre mission maintenant, démontrer qu'il a changé l'Europe en 2022.
Alors, au niveau européen, en attendant, le nombre de cas de Covid a augmenté ces dernières semaines. Ça s'établit maintenant à 46 infections pour 100 000 habitants par semaine, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui connaît bien son affaire, c'est-à-dire au niveau du mois de mars. Est-ce qu'on est en plein dans la seconde vague et à la veille d'un nouveau confinement ?
Non. D'abord, on n'est pas à la veille d'un nouveau confinement généralisé tel qu'on l'a connu en France et dans d'autres pays européens, dans beaucoup d'autres pays européens. Mais il faut être clair, au-delà des slogans, si je puis dire, il y a une reprise de l'épidémie qui n'est pas comparable à celle que l'on a connue au mois mars, avril, mai. Pourquoi ? D'abord parce que, heureusement, les niveaux d'hospitalisation, de réanimation en particulier, ne sont pas les mêmes. Parce que souvent, ce sont des reprises aussi qui sont dans chacun de nos pays ciblés. Et puis surtout parce que on est mieux préparé, mieux équipé, et donc nous pouvons intervenir aussi plus vite quand il y a une situation à risque dans un territoire. Et puis nous prenons des mesures qui sont d'ailleurs, on reviendra peut-être sur la question des frontières, mais pour les mesures sanitaires, très comparables d'un pays européen à l'autre, que ce soit pour l'organisation à l'école, pour les entreprises et le lieu de travail, avec le port du masque notamment.
Alors, vous dites mieux préparé et vous parlez justement des frontières. Sur ce sujet, on a l'impression que l'Europe, justement, agit toujours en ordre dispersé. On a vu que la Hongrie a pris unilatéralement la décision de fermer son pays à tous les pays européens, sauf à ses voisins immédiats. D'autres pays sont dans les mêmes dispositions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut plus de coordination ?
Vous avez raison. Moi, je suis un pro-européen convaincu, mais quand les choses ne vont pas, il faut le dire. Et là, on n'est pas dans une situation satisfaisante, compréhensible par nos concitoyens en France et partout en Europe en termes de coordination ou de non-coordination. Et les critères sur lesquels on fonde les décisions au niveau européen, ça paraît bizarre, mais ce ne sont pas les mêmes. Il y a autant de procédures que de pays, à son propre comité d'évaluation, ses propres critères, etc. C'est là-dessus qu'on agit, pour être très concret. Aujourd'hui, cette semaine même, la France a fait cet été une proposition, d'abord à l'Allemagne et à tous ses partenaires européens, pour qu'on ait les mêmes critères de décision sanitaire. La Commission européenne, je crois, dès ce vendredi, fera une proposition pour qu'on ait les mêmes critères entre les 27. Et puis, il y a des pays, pour être tout à fait complet, vous évoquez le cas de la Hongrie, qui ne jouent pas le jeu du tout. C'est-à-dire qui disent danger, virus, je me ferme. Bon. On l'a connu au printemps. Heureusement, on n'est pas dans la même situation parce que ce sont aujourd'hui des cas isolés. Une situation qui n'est pas coopérative, qui n'est pas européenne. Ce qu'est en train de faire la Hongrie, pas totalement surprenant non plus. Mais au-delà de ce cas, il y a un vrai travail de coordination qui s'accélère. C'est quand même, si on y arrive, et je pense qu'on va y arriver, un vrai changement. C'est-à-dire que dans une matière qui est très sensible, très nationale traditionnellement, même locale, dans certains pays, ce sont les régions qui décident, comme en Allemagne. Avoir une harmonisation de nos critères, de nos procédures de décision sur des grandes épidémies au niveau européen, c'est à la fois nécessaire et ce serait une très grande avancée.
Alors, évidemment, les Européens attendent beaucoup aussi du point de vue économique, hein, puisqu'il y a un plongeon très net. Le Premier ministre Jean Castex a présenté cette semaine son plan de relance à 100 milliards d'euros pour la France. On serait d'ailleurs les meilleurs de la classe européenne du point de vue du PIB, sur cette somme d'argent. Mais 40% viennent de fonds européens. Alors, vous dites quoi aux Français ? Sans l'Union européenne, il n'y aurait pas de relance suffisante, peut-être ?
Il y aurait une relance, mais je veux effectivement dire très simplement le rôle de l'Europe dans cette relance, dans ce plan de relance, dans notre plan de relance, est absolument crucial, massif, inédit. Ce plan de relance lui-même est inédit par son ampleur. Le Premier ministre l'a dit cette semaine, 100 milliards d'euros, c'est à ce stade le plus important des plans de relance au niveau européen en pourcentage du PIB. C'est 4 fois plus que ce qui avait été fait pour la relance il y a 10 dizaines d'années, pendant la crise de la zone euro. Et c'est nécessaire, parce que nous vivons une crise économique très importante. Et il y a cette dimension européenne, qu'on n'a pas connue d'ailleurs dans la crise économique précédente, qui est absolument fondamentale. Et moi j'insiste beaucoup, il y a les grands chiffres. 750 milliards d'euros de plan européen. 40 milliards d'euros, donc 40% du plan de relance français. Mais maintenant, il faut être très concret et suivre cette dimension européenne, la faire vivre, si je puis dire, dans la durée de ce plan de relance. Ça veut dire concrètement que chaque projet financé en France de ce plan de relance, qui sera signalé par un logo du plan de relance, qui inclura d'ailleurs pour la première fois le drapeau européen, et c'est pas anecdotique, c'est très important, sera financé à 40% par l'Europe. Une ligne ferroviaire, une rénovation énergétique, un emploi pour un jeune financé dans le cadre de ce plan, c'est 40% qui est apporté par l'Europe. Donc c'est pas massif et abstrait, c'est concret et précis. Parfois, on a parlé il y a un instant, pardon, des frontières. L'Europe ne fait pas encore assez, pas assez bien, et on se bat pour essayer de faire mieux. Et puis parfois, l'Europe est au rendez-vous, est à la hauteur, et il faut aussi le dire, parce que ça n'est pas évident, et là, c'est le cas.
Alors, ce qui compte aussi dans un plan de relance, c'est le calendrier. Il faut qu'il soit mis en place au bon moment, et donc que l'argent arrive au bon moment. Alors, on a vu cet été que c'était assez difficile quand même de trouver un accord entre les 27 sur ce plan à 750 milliards d'euros. Mais aujourd'hui, le Parlement européen menace de voter contre, parce qu'il a peur que le budget global de l'Union européenne soit écorné par ce plan. Est-ce que on compromet pas l'avenir, et est-ce qu'on est sûr que l'argent va être débloqué à temps?
Alors sur la position du Parlement européen, vous avez raison, les choses ne sont pas acquises, il y a un débat, et tant mieux d'ailleurs, c'est un débat démocratique, européen, sans être trop technique, il y a deux éléments, il y a le plan de relance lui-même, qui sera dépensé vite, sur 3 ans, et puis il y a le budget européen, qui dure 7 ans, et qui inclut des choses très importantes, comme la politique agricole commune, par exemple. Ce budget européen, ça je le dis très clairement, il n'a pas été sacrifié d'un euro, d'un centime d'euro, par le plan de relance. En février, nous avons échoué à avoir un accord sur le budget européen. On était en dessous de ce qui a été finalement agréé et ça ne comportait pas le plan de relance. Donc il n'y a vraiment pas eu de vase communicant et de sacrifice du budget par le plan de relance. Ce que disent un certain nombre de parlementaires européens, et je le partage au fond, c'est qu'on aurait pu être plus ambitieux encore sur le budget européen. Je pense honnêtement que là, il y a un enjeu quand même de vitesse. Adoptons ce plan de relance rapidement, adoptons ce budget européen rapidement. Aucune des politiques du budget européen, agriculture, Erasmus, etc., n'est en baisse. C'était le cas au début de la proposition de la Commission, par exemple, pour l'agriculture. On s'est battu pour stabiliser cette politique et les autres sont en forte augmentation. Pas autant que j'aurais voulu, que la France aurait voulu, ou que certains parlementaires, à juste titre, demandent, mais il faut quand même reconnaître ce pas en avant. C'est très important. Il y a un dernier point, comme l'insister, parce que c'est très très important, et je crois que le Parlement, insistera sur ce point, et la France est totalement dans ce combat. Ce sont les nouvelles ressources. Finalement, on bute toujours sur les mêmes problèmes au niveau européen. Tout le monde dit c'est formidable de faire Erasmus, c'est formidable de faire la défense européenne, etc. Et puis quand il faut contribuer, c'est plus compliqué. Et donc une des solutions, pour ne pas faire peser cela sur les contribuables européens, les citoyens comme les entreprises, c'est de faire payer ceux qui ne payent pas aujourd'hui et qui profitent de l'Europe. Je pense évidemment aux grandes plateformes numériques, pour lesquels souvent l'Europe est le premier marché au monde. Je pense à ceux qui exportent vers l'Europe, grandes entreprises chinoises, indiennes, américaines, et qui ne respectent pas les mêmes exigences environnementales.
Mais pour l'instant, tout ça n'est pas encore inscrit.
Non, mais je crois que le Parlement européen le soutiendra et on aura ce combat à mener. Et c'est là que je dis aux parlementaires européens, menons ce combat parce qu'une très large majorité des parlementaires européens veulent cela.
Il y a une autre question économique un peu prégnante en ce moment, le Royaume-Uni, le fameux Brexit, avec des négociations qui bloquent notamment sur l'accès des pêcheurs aux eaux britanniques. Est-ce que vous avez le sentiment, puisqu'on est à la rentrée et puis que la fin de l'année se profile, qu'on va vers un no deal, un non-accord commercial avec les Britanniques?
Je ne le souhaite pas et je pense qu'on peut encore l'éviter, mais c'est un risque. Et d'ailleurs, dans les prochaines semaines, nous actualiserons et nous renforcerons nos préparatifs à tous les scénarios, y compris celui du no deal, pour qu'on protège autant qu'on le peut en cas de non-accord qui ne serait pas un bon scénario. Je ne souhaite pas le non-accord et ce sont aujourd'hui les Britanniques qui nous mettent dans cette situation. Est-ce que c'est pour des raisons tactiques, ils essayent de mettre la pression sur l'Europe? Honnêtement, ça ne marchera pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ne souhaitent pas d'accord? À ce moment, il faut le dire. Mais on ne peut plus être dans une forme de jeu politique ou tactique dans lequel les Britanniques demandent, au fond, l'impossible. C'est-à-dire l'accès à notre marché sans respecter nos règles de concurrence environnementale, etc. Ça n'est pas possible. Ce serait pire qu'un mauvais accord. Ce serait un accord qui détricote l'acquis européen et la protection européenne. Donc on se prépare à tout, on continue à négocier de bonne foi avec les Britanniques et j'espère que d'ici la fin du mois de septembre, puisqu'il y aura de nouvelles négociations, les Britanniques feront enfin des propositions plus raisonnables.
Partons maintenant vers la Bulgarie. Jeudi, des milliers de personnes ont protesté devant le Parlement pour réclamer, comme ils le font maintenant depuis 2 mois, la démission du Premier ministre Boyko Borisov, accusé de corruption, de pratiques mafieuses. Des manifestations émaillées pour la première fois de violence. Explication d'Ashren Verdian.
Au cri de démission et mafia, des milliers de Bulgares une nouvelle fois rassemblés devant le Parlement. Ils réclament la démission du Premier ministre conservateur Boyko Borisov et du procureur général, deux personnages au service de l'oligarchie, selon les protestataires.
Ce qu'il se passe en Bulgarie, c'est désastreux. L'État appartient à la mafia. Tout le gouvernement doit présenter sa démission parce qu'il a pillé tout ce qui pouvait l'être et parce qu'il ne reste plus rien.
Nous vivons dans le pays le plus pauvre et le plus corrompu de l'Union européenne. Je pense que tous les Bulgares qui ont de la dignité devraient être ici aujourd'hui, sur cette place, pour défendre leurs droits et leur honneur.
Des heurts entre militants anticorruption et policiers se sont produits. Une vingtaine de membres des forces de l'ordre ont été blessés par des jets de projectiles. De nombreux manifestants ont quant à eux été victimes des gaz lacrymogènes. Depuis 2 mois maintenant, le mécontentement gronde contre la corruption endémique en Bulgarie. Le Premier ministre Boyko Borisov, cible principale de la colère, refuse pour l'heure de démissionner. Il a même déposé un projet de nouvelle constitution au Parlement. Pour ses détracteurs, ce projet vise à maintenir les conservateurs au pouvoir et à limiter les prérogatives du président de la République. Le chef de l'État, Roumen Radev, proche de l'opposition socialiste, a lui aussi appelé l'équipe gouvernementale à la démission.
Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, vous êtes notre invité. Quelle est la réaction de Paris? Vous soutenez les manifestants ou vous soutenez Boyko Borisov?
Alors je veux dire, parce que ces sujets sont complexes, une chose, c'est qu'il y a des gens, et je crois que c'est la première fois qu'il y a déjà eu des manifestations, mais c'est la première fois qu'il y a des manifestations aussi longues, aussi massives, et surtout impliquant, on le voit sur vos images, autant de jeunes en Bulgarie. Et leur combat contre la corruption, pour ce qu'on appelle l'état de droit, est fondamental. J'y reviendrai, la France le défend activement parce que c'est une gangrène qu'on trouve dans beaucoup de régions européennes, pas seulement à l'est de l'Europe d'ailleurs, et beaucoup de drapeaux européens se trouvent dans ces manifestations parce que pour des jeunes qui croient en l'Europe, l'Europe doit défendre ces valeurs-là. Je ne rentre pas dans le débat politique sur M. Borisov parce que je sais aussi, il faut voir toute la complexité d'un sujet, que non pas chez ces jeunes qui manifestent, mais dans l'opposition, il y a certainement, on le sait, de la corruption, un certain nombre d'oligarques qui s'opposent au Premier ministre Borisov.
Les jeunes ont envie d'un nouveau système.
Mais absolument, les jeunes ont envie d'un nouveau système. Ça ne peut se régler maintenant ou plus tard que par des élections. La grande différence avec d'autres manifestations, je ne veux pas qu'on amalgame tout, qu'on voit aujourd'hui en Europe ou aux portes de l'Europe, c'est que la Bulgarie, il faut être clair aussi, est une vraie démocratie dans laquelle M. Borisov, je ne cherche pas à le défendre spécifiquement, mais a été élu de manière claire et dans des élections libres. C'est tout à fait différent de ce qu'on connaît en Biélorussie ou ailleurs.
Mais, alors, M. Beaune, il y a quand même beaucoup de vraies démocraties dans l'Union européenne à qui on reproche maintenant des dérives autocratiques.
Bien sûr.
Et en particulier, on pense à la Hongrie, à la Pologne. Pour faire pression sur des dirigeants qui ne respecteraient pas totalement l'état de droit, on pensait pouvoir leur couper les subsides européens dans le futur budget, par exemple, et on n'y arrive jamais, finalement. Pourquoi ?
La bonne réponse est là, c'est-à-dire qu'il faut objectiver les choses et être clair sur le fait qu'on ne peut pas avoir la solidarité financière européenne, c'est vrai en Bulgarie, en Pologne, en Hongrie, ailleurs, et ne pas respecter, si c'est le cas, effectivement, l'état de droit ou des règles démocratiques fondamentales. Et donc, le bon combat, c'est cela, c'est d'avoir un mécanisme européen qui permet de lier les deux, pas de respect de l'état de droit, moins d'argent ou pas d'argent. Et on n'y est pas encore là non plus, mais c'est un des combats que j'ai porté depuis le premier jour. Je suis, vous l'avez rappelé, en fonction depuis quelques semaines. C'est la première chose que j'ai dite. Nous devons poursuivre ce combat sur l'état de droit. Au Conseil européen du mois de juillet, le fameux accord sur la relance, nous avons créé un premier débat. On n'a pas encore réglé le sujet, puisqu'il y a des pays qui bloquent, pour être très clair. Mais le Parlement européen, la France, l'Allemagne, je serai dans quelques jours à Berlin pour porter cette initiative, nous défendons une législation européenne qui va être en débat dans les prochaines semaines et les prochains mois, qui, si elle est adoptée, permettra exactement ça. Vous avez une violation constatée, objectivée par la Commission européenne, c'est pas un conflit d'un pays contre un autre, objectivement, une sanction possible. C'est comme ça que l'Europe manifestera ses valeurs et sera efficace. Aujourd'hui, on n'a pas encore de dispositif de cette nature et il y aura des résistances.
Alors,
il y aura des résistances, mais c'est comme ce qu'on a connu sur le plan de relance, qu'on connaît sur la taxe numérique. C'est un changement culturel, mais je veux le porter.
Alors, l'Europe a du mal au sein de l'Union à faire respecter l'état de droit. On la trouve aussi timide à l'extérieur. Vous avez évoqué la Biélorussie. Les pays baltes ont mis en place des sanctions. Ils sont un peu seuls. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction de ce type à Bruxelles, par peur de la réaction du Kremlin ?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je signale que les sanctions qui ont été anticipées par les trois pays baltes que vous citez seront dans quelques jours, j'espère, des sanctions européennes. Le principe a été acté par les chefs d'État et de gouvernement eux-mêmes. Il y a eu un sommet exceptionnel sur la Biélorussie à la fin du mois d'août. Et le principe des sanctions, nous sommes en train d'en faire la liste précise, est acté. Et donc, des responsables, de très hauts responsables, même des membres du gouvernement biélorusse actuel, seront sanctionnés. C'est abstrait peut-être, alors je dis ce que c'est. Sanctionner, ça veut dire pas de liberté de circulation. Ça, vous me direz, c'est pas forcément très embêtant pour eux. Mais c'est geler leurs avoirs, leurs biens, dans toute l'Union européenne, et sans doute, chez un certain nombre de partenaires, comme le Royaume-Uni, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui sera avec nous sur ce sujet. Et donc, on cible les dirigeants. Et on a eu un message, je crois, beaucoup plus que dans des cas précédents dans la région, très ferme dès le premier jour pour soutenir. Je suis entretenu avec l'opposante Svetlana Tikhanovskaya pour marquer ce soutien politique européen. Vous me direz, c'est un symbole, mais ça compte aussi parce qu'il y a des gens qui risquent leur peau dans les rues de Minsk pour défendre la démocratie. On doit être à leur côté.
En Lituanie, on peut.
Oui, et elle est accueillie dans un État membre de l'Union européenne. C'est à ce titre que je me suis entretenu avec elle et nous sommes en contact avec les autorités lituaniennes pour lui apporter notre soutien et par les sanctions contre le régime en place. Troisième élément de cet engagement européen, et notamment du président de la République, c'est le dialogue avec Moscou. Parce qu'il ne peut pas y avoir de solution sans un accord et une concertation avec la Russie. Mais on ne l'a pas fait parfois dans le passé. En montrant notre détermination, y compris nos sanctions, et notre unité. Je crois que vous pourrez demander aux dirigeants baltes ou polonais qui ont été très en pointe. La France, dès le premier jour, a été sur la même ligne qu'eux.
Puisqu'on est au chapitre des sanctions, toute dernière question. La Turquie est accusée par les Grecs d'ingérence dans les eaux où elle veut forer du gaz dans les eaux de la Méditerranée. Donc la France est plutôt partisane de la manière forte et a envoyé ses frégates, alors qu'on a l'impression que l'Allemagne privilégie nettement la médiation. Qu'est-ce que vous voulez obtenir sur ce chapitre turc au prochain sommet européen du 24 septembre ?
On veut avant tout que les provocations cessent. Il y a des agissements inacceptables de la Turquie dans la Méditerranée orientale, à la fois d'ailleurs concernant la Grèce et concernant Chypre. Ce sont deux pays de l'Union européenne. Si on croit à la souveraineté européenne, on ne peut pas dire, écoutez, c'est sympathique, il y a des bateaux qui passent. Et donc on doit avoir une réaction ferme, y compris par une présence militaire. On ne cherche pas à enflammer la situation, à avoir un conflit armé, pas du tout. Mais il y a des puissances, dont la Turquie, qui testent en permanence l'unité et la souveraineté, la solidité européenne. Soit on dit rien et on s'accommode finalement de ces provocations, soit on répond, ça peut être aussi par des sanctions, et ce sera, pour être très concret et répondre à votre point, à l'ordre du jour d'un nouveau sommet européen à la fin du mois de septembre, où il y aura un menu d'options et de sanctions certainement à l'égard de la Turquie sur ce sujet.
Merci Clément Beaune d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Merci à tous de Merci. Votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur France 24 ou sur Radio France Internationale.